Alors, en fait, moi, j'ai essayé de proposer une réflexion cet après-midi sur cette situation d'enfance, dans son invisibilité, dans son caractère coincé entre différentes logiques institutionnelles, aussi pour un petit peu faire écho aux interventions de ce matin et de cet après-midi. Donc, je vais vous proposer une contribution qui cherche à retracer un certain nombre de zones d'ombre pour essayer de comprendre justement le cadre dans lequel se développent et se déploient les expériences des enfants, sur lesquelles je ne vais pas beaucoup revenir faute de temps, mais aussi l'organisation des pratiques professionnelles. Alors, cette réflexion, elle repose sur différents projets de recherche collectifs, donc réalisés avec un grand nombre de collègues que je salue, des recherches qui se sont développées entre 2014 et 2020, dont les financeurs ont été le Défenseur des droits, le Centre Henri Ecperse et l'Institut Convergence Migration. Pour le projet de recherche financé par le Défenseur des droits et celui financé par le Centre Henri Ecperse, donc le projet Éduc inclus, les rapports de recherche sont disponibles respectivement sur le site du Défenseur des droits et sur le site du CHA, donc du Centre Henri Ecperse. Vous pourrez donc les consulter si ça vous intéresse. Il y aura notamment des développements méthodologiques un petit peu plus long, parce que là, je n'aurai pas le temps de revenir sur ces questions-là. Donc, nous avons enquêté sur différents territoires, des territoires très favorisés, des territoires très défavorisés, en région parisienne et en province, et aussi également dans un DOM en Guyane. Alors, à partir de là, donc, on pourra revenir sur des questions plus précises, mais ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de vous proposer une clé d'analyse sur ce positionnement relativement invisible de l'enfance migrante à l'école. Je vais donc vous épargner un certain nombre de sigles très compliqués qui ont évolué dans le temps. Alors, il faut comprendre que l'école française entretient encore aujourd'hui, mais il y a là une continuité historique, un rapport relativement tâtonnant à ces élèves migrants. La France, on le sait, c'est un ancien pays d'immigration. Dès la fin du 19e siècle, c'est aussi un pays qui n'a jamais été une terre d'émigration, contrairement à un certain nombre de ses voisins. Donc elle a construit une politique institutionnelle relativement singulière par rapport à ses voisins d'Europe de l'Ouest. De son côté, l'école est une institution relativement centrale dans la socialisation nationale. Elle est pensée de cette façon depuis la fin du 19e siècle. Et elle a été pensée de cette façon aussi par les sociologues de l'éducation, notamment par Émile Durkheim. Chaque année, des dizaines de milliers d'enfants sont concernés par un accueil institutionnel dans le cadre du système éducatif français, ceux que l'on appelle les EANA, les élèves allophones nouvellement arrivés. On va les appeler les primo-migrants à l'école pour aller un petit peu plus vite. Et donc, pour les données de 2018, ils étaient 60 000 enfants concernés. Donc, ce sont des enfants qui sont rentrés dans le système éducatif. Il y a un certain nombre d'enfants encore qui n'ont pas pu encore rentrer dans le système éducatif. Entrer dans le système éducatif, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en classe. Ça signifie qu'ils ont eu une première évaluation scolaire. Donc ce rapport tâtonnant de l'institution scolaire à ses élèves migrants, il est lié entre autres au croisement de différentes logiques d'action qui organisent les principes institutionnels de l'école, et notamment d'une part une ambition de la part de cette institution de se présenter, et c'est très présent dans les rapports, dans les propos des professionnels, comme une institution capable de participer à l'émancipation, et ceci pas uniquement d'ailleurs des élèves migrants, et cette émancipation, elle a, depuis quelques années, été largement encouragée sur des modalités très individuelles, notamment dans la compensation scolaire. On trouve les fondements de ces politiques dans la déclaration de Salamanque de 1994 sur les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Pour les élèves primo-migrants, ce rapport singularisé des compensations, il va prendre la forme de méthodes ad hoc dites transculturelles ou interculturelles. Elles vont toujours se mettre en place auprès de ces élèves en marge du système éducatif majoritaire, par exemple dans des filières dédiées ou dans des cours qui ont lieu le soir. Et dès les années 60, ces pratiques pédagogiques vont faire l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment en raison de leur culturalisme ou parce qu'elles encourageraient, dans certains cas, le communautarisme. À l'inverse, il existe une autre logique institutionnelle qui est, de la part de l'école, une forte dépendance aux principes universalistes de non-reconnaissance des attributs collectifs, notamment ceux à caractère ethnique, qui sont particulièrement réaffirmés après 1945 avec une diffusion plus forte du modèle, entre guillemets, universaliste. Il y a donc là des injonctions paradoxales entre, d'une part, et plus récemment, à partir du milieu des années 90, des injonctions à la différenciation et à la singularisation, à l'individualisation des parcours, et d'autre part, des pratiques pédagogiques qui restent en même temps largement attachées au rejet de toute forme de différentialisme. Alors, les questions dans ce contexte-là qu'on peut se poser, c'est d'essayer de comprendre le statut social, c'est-à-dire réel, à travers les traitements institutionnels qui va être celui de ces enfants-là, et quelles peuvent être un certain nombre de structures et de fondements qui vont organiser ces mécanismes institutionnels. Alors, on essaiera de mettre en évidence un certain nombre de ces mécanismes. Ils ne sont pas du tout exhaustifs pour des raisons de temps. On va en voir deux. Dans les logiques qui organisent les pratiques des acteurs, on trouve notamment l'influence du paradigme de l'accessibilité et de l'inclusion scolaire et, d'autre part, l'influence de logiques post-coloniales et décoloniales dans les interventions éducatives. Ceci s'organise très clairement en lien avec une démocratisation du système éducatif. Donc, ça va commencer vraiment à partir de 1945 et s'accélérer à partir de la seconde moitié des années 70. Alors, l'élève migrant, dans ce contexte-là, il constitue une figure institutionnelle pour les acteurs enquêtés, notamment les acteurs institutionnels et les enseignants, liminal, c'est-à-dire intermédiaire, qui n'a pas véritablement d'existence sociale institutionnelle. Les textes montrent d'ailleurs des chevauchements entre la définition de ces élèves-là, voire des contradictions. On a un grand nombre de corpus qui nous l'expliquent, où finalement il y a une difficulté de définition institutionnelle de ces élèves-là, et donc une variation dans l'acception de l'élève qui doit être soutenu, qu'on montre bien dans le rapport rendu au défenseur des droits. Il existe notamment dans cette figure intermédiaire coincée un tiraillement entre, d'une part, des logiques qui vont emprunter à une gestion, on va le voir, post-coloniale de la question éducative, et d'autre part, l'organisation d'une légitimation de l'aide scolaire qui va être structurée à partir du champ du handicap, et ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Il y a donc une difficulté à mettre en œuvre auprès de ces publics une politique de démocratisation réelle ou de diversité, ou pour le dire autrement, comme les anglo-saxons, d'accessibilité éducative. Alors, l'origine de cette question scolaire en tant que question sociale, elle se trouve dans la période directement qui commence à partir de la démocratisation du système éducatif, fin du 19e, dans la conjonction entre une situation migratoire spécifique associée à une situation coloniale et la mise en place progressive de la démocratisation du système éducatif. Il faut comprendre qu'en France, la France est dotée depuis, l'école est dotée depuis sa fondation d'une forte ambition d'opérationnalisation du projet politique républicain d'émancipation et d'égalisation des conditions. Dans ce contexte-là, on attend de l'école qu'elle puisse sortir de leurs conditions potentiellement les élèves des catégories populaires et tous les nouveaux entrants dans le système éducatif. On a à la fin du 19e siècle, au moment ou même avant la promulgation des lois Ferry, une situation spécifique en France métropolitaine d'une situation migratoire dynamique qui est encouragée par une conjoncture économique relativement forte, enfin relativement dynamique, et par une situation démographique spécifique qui fait que la France fait fortement appel à l'immigration. Et dans le même temps, la France développe une expansion coloniale particulièrement marquée et dont une partie de ces populations colonisées vont constituer ensuite le vivier migratoire vers la France. 1882 et 1881, ce sont les lois, ce qu'on appelle les lois de démocratisation scolaire, qui vont donner un projet politique et concret au projet d'égalisation scolaire des conditions. On assiste donc à une recomposition très progressive, mais toutefois significative des publics scolaires à ce moment-là, avec un certain nombre de nouveaux entrants. Hein, ces enfants, à l'époque, ils sont désignés comme des étrangers, statistiquement. On est vraiment dans les tout premiers recensements à ce moment-là. Mais en même temps, cette arrivée de ces enfants dans le système éducatif va être très progressive, puisqu'en fait, on se rend compte que l'obligation scolaire des lois Ferry ne sera que peu appliquée. Il faudra attendre la loi notamment du 9 août 36 du Front Populaire pour que ces enfants puissent effectivement avoir l'obligation d'être présents sur les bancs de l'école. Toutefois, dans les années 30, on a un certain nombre de données, notamment qui sont recensées par Gérard Noiriel, qui montrent qu'il y a déjà un grand nombre d'élèves étrangers, notamment dans le premier degré. Hein, plus de 300 000 d'élèves sont comptabilisés de 6 à 13 ans. Plus de 260 000 d'entre eux le sont dans l'enseignement public, hein, ce qui est quand même une part importante de la population scolarisée. Et à ce moment-là, donc on parle essentiellement du premier degré, ceci n'est pas anodin, ils sont perçus de façon relativement positive. Et les premières enquêtes sur la scolarisation des Italiens et des Algériens dans les années 10, 20 ou 30 font état d'observations alors, assez condescendantes, hein, mais en tout cas qui montrent que les performances scolaires de ces enfants, donc dans le premier degré, sont bonnes et qu'ils sont respectueux, ces élèves, hein, de l'ordre scolaire par rapport à leurs semblables de mêmes milieux sociaux, hein, donc de milieux sociaux relativement défavorisés. Les enquêtes de l'INED du milieu des années 1950, qui portent cette fois-ci sur les Algériens en Ile-de-France, en région francilienne, révèlent des relations enseignants-élèves qui sont particulièrement apaisées et fécondes. Il n'y a donc pas à ce moment-là de problème scolaire en tant que tel, notamment parce qu'il n'y a pas de concurrence scolaire, donc pas d'exigence normative forte, et pas de fait en sociologie, hein, puisqu'il n'y a pas d'exigence normative, il y a peu de déviance scolaire en tant que tel. L'émergence de l'importunité scolaire pour un certain nombre de ces élèves-là va être concomitante de la démocratisation de l'enseignement scolaire. C'est vraiment donc pendant en France on a appelé les 30 glorieuses que cette thématique-là va émerger. Dans les pays anglo-saxons, on lui donne tout de suite le terme de besoin éducatif particulier à partir des années 50-60. Et cette notion de besoin éducatif particulier va apparaître comme un régulateur de ces désordres sociaux et scolaires au sein de l'institution. En ce qui concerne la démocratisation en France, les premières prémices qui vont conceptualiser un tronc commun d'enseignement dans le second degré, donc jusqu'à 15 ans, sont présentes dans le programme, le plan Langevin-Wallon de 1947, sauf que ce programme n'est jamais appliqué et qu'il sera appliqué pas du tout de la même façon à travers la réforme Habi de 1975, donc 30 ans plus tard. La réforme Habi de 1975, donc la réforme, pour le dire rapidement, sur le collège unique, sur une seule forme d'enseignement dans le second degré, va produire un élan de démocratisation scolaire inédit dans la société française, élan auquel vont largement participer les enfants migrants, et qui correspond à un élan généralisé de foi dans l'amélioration généralisée des conditions à l'époque. Cela étant, entre 1975 et 1947, il se passe 30 ans, et cela correspond à un retournement, là encore, sans précédent de la conjoncture économique. Et donc, au moment où la démocratisation scolaire va effectivement intervenir pour le second degré, eh bien, donc le second degré qui est plus directement lié à l'insertion économique que le premier, eh bien, c'est le moment où les places et les opportunités économiques vont se restreindre, ce qui va produire toute une série de manquements et d'empêchements en termes d'opportunités et aussi des réflexivités tout à fait différentes de la part des enfants. Alors, en parallèle de cette période, la France est engagée dans une éducation coloniale avec une spécificité du modèle impérialiste français qui est la dimension éducative, hein, qu'on ne retrouve pas par exemple dans le modèle néerlandais ou dans le modèle britannique, notamment pour les enfants. Mais cette influence éducative, elle va tout de même se faire sur fond de différentialisme, notamment de différentialisme de mesure des intelligences, des moralités ou des races. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les pratiques pédagogiques dans les colonies et les pratiques pédagogiques auprès des enfants migrants en métropole vont largement être interpénétrées, notamment avec la production d'un certain nombre de manuels, de supports, voire même la discipline du FLE à l'époque, ce qu'on appelle du français langue étrangère. Donc cette influence éducative et cette interpénétration entre le colonial et le migratoire, pour le dire très rapidement, il va s'organiser dans les espaces éducatifs et on observe que les enfants migrants vont être beaucoup plus souvent assujettis à ces pratiques liées au différentialisme, notamment des tests de mesure de l'intelligence ou le développement à leur encontre de proximité, enfin d'une rhétorique de la proximité ou de la distance culturelle qui est encore utilisée chez certains collègues didacticiens aujourd'hui en France. Alors, ça va participer à une inscription à la fois indicible et invisible de ces enfants dans le système éducatif, et ceci depuis 1945. Alors, dès 1945, on pose vraiment la question migratoire, alors que ce n'est pas une question récente à ce moment-là. Et on la pose dans la société, mais en fait, on le pose assez peu, finalement, dans la recherche en sciences sociales par rapport à la réalité sociale, puisque après 1945, on a un focus, vraiment une centralité sur le paradigme de la classe sociale. Il y a eu un grand nombre de productions sur la question. Mais du coup, ce paradigme sur la classe sociale, qui correspond à une réalité sociopolitique, surréalisme, existentialisme, etc., va complètement invisibiliser la question ethnique et la question raciale dans le système éducatif. Et c'est une période, on l'a dit, où la France a besoin de réaffirmer une rhétorique républicaine. Donc finalement, les choses semblent assez cohérentes et les chercheurs vont, comme tous les autres individus, être pris dans une forme d'influence sur le nationalisme méthodologique, si on peut le dire de cette façon-là. C'est aussi, à partir de cette période-là, une période de décolonisation progressive et qui ne se fera pas du tout de la même façon selon les territoires. Mais dans chaque cas, on révèle les abus, les excès qu'ont pu mener un certain nombre d'institutions éducatives. Et ça semble d'autant plus, ça désenchante d'autant plus que ces institutions étaient censées favoriser l'émancipation des individus. Donc il y a là une confusion vraiment entre la situation coloniale et la situation des migrants, ou la situation dans l'immigration. Mais toutefois, un certain nombre de pratiques pédagogiques adaptées, largement teintées par ces dynamiques-là, vont continuer à se développer parce qu'elles se développent en marge du système éducatif. Et donc il y a peu de regard finalement et peu d'évaluation sur elles. D'un point de vue purement de la politique publique et de la catégorie d'action publique, on a l'expression même de cette invisibilité, avec d'une part une non-reconnaissance des attributs ethniques, par exemple, ou linguistiques, mais en même temps, évidemment, une non-reconnaissance des logiques raciales, et dans le même temps, une ségrégation institutionnelle très forte, explicite dans le cadre de classes relativement fermées dans un premier temps, ou de cours relativement réservés dans un premier temps, puis de façon plus latente, avec une surorientation importante de ces enfants dans les filières de l'inadaptation scolaire d'abord, pour les classes de perf, puis de la grande difficulté scolaire, pour les sections d'enseignement spécialisé, puis les SECPA, qui accueillent une partie d'élèves en grande difficulté scolaire, mais aussi une partie d'élèves en situation de handicap. Alors, dans le cadre de cette organisation institutionnelle, là, eh bien, la langue française va jouer un rôle tout à fait central et correspond bien à cette cohérence historique de cette position des enfants migrants à l'école. La langue française, c'est dans le système éducatif ce qui clairement permet de donner une cohérence à la fois aux exigences scolaires à l'égard de ces enfants et en même temps une exigence d'ordre politique, puisque finalement cette injonction linguistique a par ailleurs été imposée aux colonisés ou à certains ruraux, notamment au début du XXe siècle, et donc il serait cohérent de l'imposer à ces enfants primo-migrants. Par ailleurs, la capacité à apprendre le français, et là on trouve des traces de ça, les historiens ont fait un travail assez remarquable dès le XVIIIe siècle, et souvent, de la part des acteurs éducatifs, considérée comme la capacité à apprendre le français est considérée comme un prérequis à l'adaptation. Alors, l'assimilation pour le début du XXe siècle, l'adaptation intellectuelle pour les enfants sauvages trouvés dans la forêt et rééduqués au XIXe siècle, c'est un indicateur minimum d'éducabilité possible. Et donc là, cela renvoie bien à cette conjonction entre, d'une part, l'enfant inadapté, et l'enfant colonisé. Par ailleurs, dès le XVIIIe siècle, la langue française, ça a été l'outil d'opérationnalisation et d'uniformisation du peuple face notamment à l'élan démocratique de 1789. Et la langue française est considérée à ce titre-là comme tout à fait cohérente et tout à fait légitime. Alors, cette situation de la langue française et cette centralité institutionnelle de la langue française, elle va évidemment avoir des incidences dans les pratiques et dans les jugements des enseignants, dans les pratiques institutionnelles. C'est que les pédagogues, mais aussi les experts, les didacticiens, vont de fait considérer comme une situation de besoin éducatif particulier, donc on reprend en France la rhétorique anglo-saxonne, vont considérer comme digne d'être soutenu et de faire l'objet d'une compensation pédagogique, en premier lieu les enfants qui ont une situation linguistique qui légitime cette aide. Il y a donc à partir de ce moment-là toute une production réglementaire, mais aussi la diffusion et le développement de moyens supplémentaires, des heures, des supports pédagogiques et même une certification pour les enseignants qui a connu des évolutions. Mais pour être enseignant, alors c'est pas le cas partout hein, malheureusement, mais pour être enseignant auprès des enfants primo-migrants désignés allophones, il faut avoir une certification, donc fait l'objet d'une formation supplémentaire. À ce titre-là, d'un point de vue institutionnel, cette enfance-là constitue de fait une minorité scolaire instituée par l'ordre scolaire. Toutefois, cela correspond à une vision relativement conservatrice de l'accessibilité, puisque l'accessibilité est ici envisagée dans une acception très restrictive, très technique, techniciste, héritée en fait du champ du handicap. On se demande ce qui manque à ces élèves, quelle est leur lésion, pour être à égalité des chances avec leurs équivalents. Donc on repère là qu'on réfère à la logique de la justice scolaire de l'égalité des chances et pas de l'égalité des places et des dignités, ce qui en soi est un choix, hein, mais un choix là encore relativement stable historiquement. Et dans ce cadre-là, la langue française va être considérée comme une prothèse pédagogique. Cette logique de l'accessibilité envisagée dans une acception restrictive et technique et techniciste va être associée en France au principe du colorblind, qui fait que l'identification donc de l'indifférence aux différences, pour le dire rapidement, qui fait que l'identification d'un besoin éducatif ne peut être légitime que s'il est scolairement interprétable, puisqu'on ne peut pas l'associer à une origine, par exemple linguistique ou une minorité plus racisée. Du coup, pour qu'elle soit scolairement interprétable, cette caractéristique, il faut qu'elle soit référencée au programme scolaire. Et dans ce cadre-là, le registre linguistique va apparaître comme le meilleur instrument de légitimation du soutien par rapport à un risque d'échec scolaire qui, ici, est un risque est essentiellement linguistique. Le français apparaît en outre comme à la fois une discipline scolaire, donc il faut la maîtriser d'un point de vue des compétences en littérature, mais c'est aussi une injonction structurelle dans les politiques d'immigration, et on voit bien que la réaffirmation ces dernières années de cette question linguistique correspond bien par ailleurs aux politiques d'immigration dans leur ensemble. De fait, sa maîtrise dans l'ordre scolaire devient une nécessité et sa non-maîtrise, hein, la première légitimation de du soutien et de l'aide. Alors, est-ce qu'il s'agit, et c'est la dernière série d'idées, est-ce qu'il s'agit d'une conception réactionnaire de l'élève et de l'accessibilité ? Est-ce que cette logique de la centration sur la dimension linguistique est un frein à des politiques plus libérales ou plus multiculturelles, par exemple, d'éducation ? Ce qui est sûr, c'est que les experts en didactique du français vont complètement donner une consistance scolairement acceptable à cette centralité de la langue française en produisant des outils extrêmement féconds, extrêmement nombreux. Pourtant, on réfère bien à une logique relativement ancienne hein, de la participation scolaire, celle de l'adaptation, de l'accommodation ou de l'intégration, comme on le dit dans le champ du handicap, et non pas de l'ouverture d'un système qui serait plus inclusif en tant que tel. Cette confusion, alors que les textes ont un message et que les pratiques professionnelles ont des injonctions qui sont relativement différentes, cette situation va produire un certain nombre de confusions dans les objectifs pédagogiques pour les enseignants. Les objectifs sont-ils exclusivement linguistiques et liés à la langue française ? qui a quand même un fort primat dans les emplois du temps des enfants, ou est-ce qu'ils sont plus généralement scolaires et en termes de performance? Alors, cette situation va produire de la part des acteurs de terrain des conceptions hiérarchisées de ce qu'on appelle les allophones, hein, donc de ces enfants qui sont désignés par la politique publique éducative, une conception hiérarchisée en rapport à la dimension linguistique. Dans ce cadre-là, l'allophone paradigmatique digne d'être soutenu, c'est celui qui ne maîtrise pas le français, mais qui a des bonnes performances scolaires, et donc l'aide, le soutien ne serait finalement que scolaire, à l'inverse d'un allophone qui, en fait, n'en serait pas vraiment un, on le voit souvent dans les citations d'entretien, qui serait en fait un migrant, en référence à la politique publique de la France, migrant qui parlerait le français relativement bien, mais serait en difficulté scolaire, notamment dans son rapport à l'écrit, c'est ce qui revient très souvent. Et donc c'est là le migrant originaire d'Afrique, hein, plus racisé, qui est directement ciblé. Il y a donc là, dans cette hiérarchisation-là des élèves, une surlégitimation de la dimension linguistique qui va, sans forcément le vouloir, hein, mais effacer complètement toutes les autres raisons, toutes les autres légitimations des difficultés éventuelles des enfants migrants, notamment les difficultés économiques, sociales, raciales, etc. Toutes ces difficultés-là pouvant faire davantage l'objet d'une médicalisation, d'une psychologisation de la part des institutions éducatives, ce qui revient en fait à discréditer la légitimité de la difficulté scolaire. Alors, en conclusion, pour le dire très rapidement, parce que je crois qu'il faut que je termine, juste interroger sur l'existence, finalement, d'une tension entre deux missions centrales du système éducatif, et ceci depuis la fin du XIXe siècle, qui sont l'instruction et la socialisation. L'instruction, c'est la transmission de connaissances, et ça vise aussi à préparer une intégration économique. C'est une mission qui existe dans tous les systèmes éducatifs, mais qui est particulièrement valorisée dans les systèmes éducatifs anglo-saxons, notamment, qui sont ceux qui ont développé les théories de l'accessibilité et des besoins éducatifs particuliers, avec une conception très individualisée des parcours scolaires. À l'inverse, une mission de socialisation qui est particulièrement signifiante en France, notamment parce qu'elle répond, hein, au projet politique de citoyenneté et de cohésion sociale plus générale. Dans ce contexte-là, la prise en compte des besoins éducatifs particuliers ou des besoins spécifiques, elle va directement occasionner une réinvention profonde de la forme scolaire traditionnelle, une réinvention de la posture de l'élève face à ses camarades, face à ses enseignants. On va demander que l'élève soit coproducteur de sa connaissance, qu'il soit un agent, un entrepreneur de sa scolarité et de la revendication de ses droits. Une réinvention également de la posture d'enseignant, qui va davantage être positionné comme un enseignant outil, un enseignant ressource, avec toutes les interrogations que cette mutation suggère. Par ailleurs, un autre point, et je terminerai là-dessus, on a observé, donc avec un certain nombre de collègues aussi, que ces scolarités faisaient, pour une partie d'entre elles, l'objet d'une déscolarisation partielle de certains temps scolaires, avec une forte exigence de la part d'enseignants sur ce qu'on appelle le métier d'élève, hein, c'est-à-dire sur la conformation sociale, morale de l'élève, indépendamment de ses résultats scolaires. Cette conformation sur le métier d'élève pour certains enfants, donc notamment une conformation sur les corps, hein, par exemple, est vécue véritablement comme une épreuve d'initiation, de conformation, qui ressemble assez, hein, au récit, au témoignage qu'on a des historiens de l'élève colonisé dans les institutions coloniales. On observe que cette centration sur ces exigences-là, elle est inégalement distribuée selon les élèves primo-migrants et notamment selon la catégorisation raciale. On a une forte valorisation des missions de citoyenneté, de socialisation, pour le dire très rapidement, chez les élèves les plus racisés, qui sont aussi ceux qui sont les plus, entre guillemets, francophones, il y a beaucoup de guillemets à mettre, et à l'inverse, une scolarisation beaucoup plus libérale, beaucoup plus individualisée, va s'organiser à destination des élèves dont les performances scolaires sont bonnes, mais surtout, hein, qui sont moins racisées. Il y a donc là deux écoles, hein, qui vont cohabiter au sein des mêmes espaces éducatifs, dans les mêmes groupes classes, hein, une école qui socialise et puis une école qui instruit davantage, mais il est important de voir que les publics de ces deux écoles sont racialement et socialement distribués et que les deux formes de ces écoles-là sont tout à fait légitimes dans le système éducatif français. Dans le cas des élèves qui sont les plus identifiés comme les plus dignes, les plus sauvables, pour reprendre les termes de ce matin, on envisage et on repère une école qui va davantage insister sur des apprentissages, sur des méthodes à développer, des méthodes de travail, et qui sont finalement, qui répondent complètement à la conception de capitalisation accumulée, des théories du capital humain dans les conceptions libérales de la scolarité. Je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup. Merci à Maïté Narmagnac de nous avoir donc présenté ce travail qui regroupe donc plusieurs enquêtes. On va prendre 15 minutes avant de clore cette journée. Hein. Je vais rapidement poser quelques questions par rapport à ta présentation. La première, c'est la suivante sur les acteurs et les actrices en fait de ce que tu les as désignés comme des experts de pédagogie, ceux qui vont tous les discours en fait sur la façon dont sont traités ces élèves. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur trajectoire? Est-ce qu'on peut parler d'entrepreneurs de morale? Est-ce que sur ces réseaux d'influence en fait qui vont définir ce que tu désignes comme des injonctions contradictoires et ce qui peut produire une situation paradoxale entre donc ce principe républicain et ce traitement à part en fait pour ces enfants. Et justement, je voulais peut-être revenir sur la question du paradoxe. Alors, ça a été beaucoup souvent souligné dans plusieurs travaux sur les politiques. Je pense aux travaux aussi de Sarah Mazou sur les politiques de l'altérité. Alors là, qui a travaillé sur les cérémonies de naturalisation, où on voit que la langue française prend aussi une place très importante. Là, on est sur une entrée, on est sur l'institution scolaire et on voit bien combien elle est révélatrice de ces politiques d'altérisation, on pourrait dire. Au-delà de ça, est-ce que ce paradoxe, en fait, il n'est pas quelque part construit? Est-ce qu'il tient jusqu'au bout, en fait? C'est-à-dire qu'il y a, il y a, voilà, il y a une sorte de peut-être de, on pourrait, enfin, qualifier aussi de stratégie de faux paradoxe finalement dans cette contradiction. Qu'on voit bien fonctionner au niveau scolaire. Je vais m'arrêter là, ensuite on passera la parole à la salle.
Merci beaucoup pour tes questions, Séverine. Il y a plusieurs questions dans ta première question. Est-ce que ce sont des entrepreneurs de morale? Plutôt des acteurs agissant de différentes entreprises de morale, parce qu'en fait ces logiques contradictoires, elles peuvent traverser aussi les mêmes acteurs à travers des traitements différenciés d'élèves dans leur classe. Alors il y a toute une série quand même de rites d'institution. Les premiers accueils par exemple en cellule d'accueil dans les centres, les CIO ou dans les établissements scolaires, la première fois que les élèves soit avec des éducateurs de l'ASE, soit avec leurs familles viennent dans les établissements scolaires pour avoir les tests. Là, il y a toute une série de négociations, en fait, d'arrangements et d'interprétations des résultats scolaires, de l'entretien qui s'est produit. Là, il va y avoir très clairement les deux indicateurs, l'indicateur linguistique et les performances scolaires, notamment en mathématiques, qui sont testés. ensuite, il va y avoir ces séries d'interprétations à l'arrivée de l'élève en classe. Et puis ensuite, de nouveau, à chaque conseil pédagogique, puis chaque conseil de classe. Enfin, il y a comme ça des moments où il y a des espaces de définition de ce que c'est être légitime à être soutenu, de ce que c'est qu'être légitime à avoir les points brevets, par exemple, pour la maîtrise d'une langue étrangère, ce qui n'est pas fait pour tous les élèves. Enfin voilà, il y a toute une série comme ça d'actes instituants. Après, des entreprises de moralisation en tant que telles, c'est plus rare. Donc la morale au sens de la justice scolaire, ça existe. Des entreprises de moralisation, c'est plus rare, mais c'est pas non plus absent. C'est par exemple le cas quand les acteurs éducatifs vont expliquer aux parents qu'il ne faut pas que les enfants, enfin les jeunes, aillent au square le soir, parce que du coup ils vont se rapprocher de la jeunesse de la rue, ou qu'il faut se coucher, qu'elles demandent l'heure du coucher aux élèves, ou ce qu'ils ont mangé, ou s'ils mangent le matin. Voilà, il y a toute une série comme ça de questions, notamment en lien avec le corps et la santé, qui sont plus avec des recommandations, qui sont plus dans les espaces de moralisation. Mais la morale au sens d'une conception du juste, c'est une question qui vraiment structure toutes les pratiques professionnelles. Les enseignants que j'ai rencontrés, il y a très peu d'enseignants qui étaient complètement certains de leur jugement. Ils étaient tout le temps dans des interrogations multiples. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est justifié ? Et du coup, ils trouvaient le principe de justice dans la justification, tout le temps. C'est-à-dire que c'est parce que il y avait un certain nombre de collègues qui montraient que l'inclusion s'était mal passée, que donc le comportement n'était pas bon, que on ne pouvait pas envisager, par exemple, une participation scolaire plus régulière. Mais eux-mêmes étaient quand même relativement tiraillés. Après, il y a aussi des positions très paradigmatiques. Il y a des acteurs, notamment dans l'encadrement de l'éducation nationale, qui disent très clairement non, il y a toute une série de ces élèves qui ne sont pas, qui ne justifient pas d'être aidés parce qu'ils sont francophones. Et donc, voilà, c'est un problème social, c'est un problème racial, c'est pas l'affaire de l'école. Ça, il y a un certain nombre de gens qui le disent plus directement. Et c'est légitime aussi d'un point de vue institutionnel, en fait. C'est légitimé par un certain nombre de textes. Il faut comprendre aussi que ces rites d'institution, ils sont d'autant plus compliqués à interpréter pour les acteurs qu'en fait, il y a toute une série de productions réglementaires qui n'est pas toujours cohérente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des circulaires au niveau national, mais après, chaque département, les politiques, elles sont décidées à l'échelle académique, mais ensuite, au sein des académies, chaque département produit aussi des circulaires qui vont faire l'objet d'interprétation. Du coup, ça va produire une situation un peu de millefeuille interprétatif. Et puis, il y a des acteurs qui sont militants, donc ils vont aussi faire leur entreprise de morale. Un grand nombre d'acteurs qui sont dans ce champ-là sont des militants, donc ils sont par ailleurs engagés dans des associations de soutien, et donc ils vont prendre sur eux toute une série d'interprétations. Pour la deuxième, alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question, pour la deuxième question, est-ce que c'est un faux paradoxe? Donc le paradoxe entre d'une part l'universalisme et d'autre part l'altérisation, pour moi c'est plutôt un paradoxe entre d'une part une logique d'institution collective et une logique de carrière scolaire individualisée. Et c'est plutôt ça le paradoxe du système éducatif aujourd'hui. Sachant qu'on valorise de plus en plus des modalités très individualistes de scolarité et que pour ces élèves, on a encore des injonctions de systèmes un petit peu plus anciens, plus traditionnels de scolarisation. Ça, c'est un paradoxe. Le système de l'universalisme, c'est en France la façon dont c'est doté, c'est le langage du collectif français. En Allemagne, c'est un autre langage, mais en France, voilà, c'est ce langage-là. Les acteurs qui vont dans leur pratique associer des pratiques de différentialisme, notamment du culturalisme, et cette demande d'égalité des chances, ils vont le faire pour aider les personnes, en fait. Ça vient vraiment d'une bonne intention. Et c'est vrai que, ils expliquent qu'il n'y a pas grand-chose à l'échelle micro de mieux qui se propose à eux. Voilà. Et c'est toujours la difficulté quand on raisonne sur les structures et qu'on voit que des systèmes ségrégatifs produisent des scolarités mauvaises, et puis à l'échelle micro où on voit que les acteurs ont à leur disposition très peu d'outils et que par contre ils ont des injonctions budgétaires assez fortes, c'est-à-dire que l'ouverture de classes nouvelles fait l'objet de négociations extrêmement âpres de la part des enseignants, puis des formateurs CASNAV, puis des inspecteurs académiques. On est dans une situation vraiment de rareté budgétaire qui est tout le temps dite aux enseignants. Le dispositif était un dispositif de 2 ans d'ayant droit, il a été réduit pour l'inclusion soi-disant, mais en fait c'est une réduction des moyens souvent qui se produit, pas dans tous les territoires mais dans certains territoires, et de fait les acteurs expliquent que maintenir un élève parce qu'il a des besoins pédagogiques plus importants, c'est prendre la place d'un autre élève, et du coup c'est un peu le cas qu'on entendait ce matin, c'est aussi ces logiques là qui produisent des paradoxes.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans la salle, on va les prendre avant de clore cette journée.
Merci pour cette présentation. Du coup, moi, j'aurais une question sur... vous avez présenté beaucoup de catégorisation qui partait d'une vision un peu racialiste, en fait, de ces élèves-là. Est-ce que vous voyez aussi, notamment dans les relations qu'entretiennent les familles migrantes, quand il y en a, aux enseignants ou à l'école, voire à l'institution en général, des logiques plutôt qu'on pourrait catégoriser comme étant des logiques de classe, ou est-ce que c'est un aspect que vous n'avez justement pas forcément traité par rapport à ce que vous expliquez justement au début de votre présentation ?
Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est une question centrale, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Alors, moi, j'ai commencé donc sur le programme de recherche EVASCOL. J'ai travaillé dans des territoires particulièrement défavorisés de Seine-Saint-Denis, et particulièrement éloignés de Paris en termes de transport, etc. Et ensuite, j'ai enquêté pour le projet de recherche éduque inclus dans des territoires particulièrement favorisés des Hauts-de-Seine. Donc du coup, j'ai eu des populations... Alors j'ai un peu plus enquêté sur EVASCOL que sur éduque inclus, mais j'ai eu des populations extrêmement différentes, et du coup ça m'a permis d'avoir quelques indicateurs sur ça. Et ce qui était très intéressant en situation sociale favorisée, donc des enfants migrants dans les Hauts-de-Seine. Alors, il faut pour revenir aux réflexions tout à l'heure, les Hauts-de-Seine, c'est un département particulièrement peu accueillant pour les familles et notamment pour les enfants, un des moins accueillants de France, alors qu'il n'est pas sous-doté budgétairement. Donc là, on a vraiment une situation particulièrement difficile. On a donc des classes, donc des dispositifs UPE2A qui accueillent à la fois évidemment beaucoup d'enfants d'hôtels sociaux, de taudis, de squats, mais on a aussi quelques enfants de personnel d'ambassade. Alors, pas évidemment les enfants des ambassadeurs, qui, eux, ne vont pas dans ces classes-là, mais j'ai quand même eu des enfants de médecins, des enfants de colonels d'armée, de pilotes de chasse, donc d'ingénieurs, donc des professions intellectuelles supérieures avant l'immigration et après l'immigration. Sinon, il y a évidemment beaucoup de situations de déclassement, donc la question de la classe sociale, mais bon, il faut lire le travail de Mathieu Ichoux sur cette question. La classe sociale, il faut vraiment la considérer de façon beaucoup plus complexe que comme pourrait le faire l'INSEE uniquement à l'arrivée, parce que souvent il y a des situations de déclassement, de reclassement, avec une vision subjective assez particulière, mais là, y compris dans des situations, on va dire, défavorisé avant l'immigration et défavorisé après l'immigration, et à l'inverse, favorisé avant et après l'immigration, il y a quand même un certain nombre de stabilités qui existent, et notamment les stabilités raciales, avec, par exemple, des enfants de haut gradé de l'armée ou de personnel d'ambassade des pays d'Afrique subsaharienne, qui étaient complètement considérés comme des jeunes également noirs qui vivaient dans des taudis et des squats, avec des rapports aux parents, puisque c'est là aussi que ça pouvait se jouer, qui étaient beaucoup plus feutrés, mais qui en fait affirmaient quand même la légitimité d'un discours à travers l'autorité scolaire. On pose des questions sur les modes de vie, on pose des questions sur les résultats antérieurs. On peut par exemple douter de la qualité de la filière d'enseignement privé reçue par l'élève en question dans le pays. Voilà. Et la rhétorique pour ces enfants-là, quand ces enfants de milieux sociaux particulièrement favorisés sont en difficulté scolaire, ce qui arrive assez souvent pour ces enfants-là, eh bien, la logique du mérite intervient de façon très forte. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne travaillent pas. Donc la variable classe sociale, elle est complètement intégrée par les enseignants, puisqu'ils considèrent anormal qu'un enfant fils d'officier, par exemple, soit un mauvais élève. Donc elle n'était pas du tout absente de nos travaux, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le temps d'en parler dans la présentation.
Alors, est-ce qu'on prend une dernière question ? Là, c'est vrai que c'est l'heure de remercier à nouveau tout le monde et le public. Voilà, on espère que cette journée vous aura intéressé comme elle nous a intéressé. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.